France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le journal de ma vie, une série d'Adila Benedjaizou. Tout de suite, Mathieu F.
Mars 2019. Premier paragraphe. San Salvador, 7h43 du matin. Qu'a-t-elle de natal, cette ville dont je ne sais rien? Il aura fallu attendre 34 ans pour que j'y revienne. Je sais à peine reconnaître sa silhouette au volcan de San Salvador, au pied duquel la ville a été construite. J'aime l'idée d'être né au pied d'un volcan. Cela me conforte dans mon désir d'être ardent, avec tout ce que cela implique de matière inquiète et tremblante.
Mathieu tient son journal depuis l'âge de 17 ans. Il a aujourd'hui 40 ans.
C'était écrit par bribes, par simples annotations tout au début.
Depuis 25 ans, il débute chaque année un nouveau fichier Word dans lequel il décrit scrupuleusement toutes ses journées.
Cela a pris de plus en plus de place dans mes cahiers et aussi dans ma vie.
25 années où il parle à la fois de son travail, précaire, de ses amis, nombreux et plutôt bourgeois, de ses sorties culturelles parisiennes et des questions existentielles qui le traversent. Le journal de ma vie, Mathieu F.
Il y a deux façons de voir la vie quand, selon qu'on tient un journal ou qu'on ne le tient pas. Le fait de le tenir vous engage à une certaine sincérité, un peu comme un moine qui prononce ses vœux.
C'est un journal volumineux, car Mathieu a une vie bien remplie. Il cherche en vain un travail qui correspond à ses aspirations intellectuelles et il est aussi à la recherche du grand amour.
Les règles, c'est de rapporter la façon la plus honnête possible, la plus véridique possible, tout ce qui m'est arrivé, le meilleur comme le pire.
Surtout, Mathieu cherche l'amour. Et ce n'est pas facile car c'est un catholique convaincu. Il est déchiré entre son envie de faire l'amour et les commandements de l'Église. Si on ajoute à ça que les femmes qu'il courtise vivent plutôt à l'heure des applis de rencontre, vous comprendrez ses difficultés. À la fois pauvre et mondain, exalté et puritain, Mathieu est un homme qui vit comme en suspens entre deux siècles.
En 2019, j'enchaîne les petits boulots. Je vivote à droite et à gauche, en prenant principalement des missions de chauffeur de maître, avec une clientèle fortunée et étrangère pour la plupart. Et également, comme certains jeunes gens de mon époque, je me suis engagé dans l'armée de terre comme réserviste opérationnel. 11 mars 2019, deuxième paragraphe. J'étais convoqué au Fort Neuf de Vincennes. Je me suis péniblement déplacé dans le métro à 6h du matin avec mes 3 sacs militaires pleins à craquer. Cette formation est un passage obligatoire pour devenir chef d'équipe, caporal. De fait, il a été bien difficile. Les cadres ne nous ont pas lâchés pendant toute cette période. Nous avons été soumis à des horaires qui nous laissaient peu d'heures de sommeil. Être réserviste dans l'armée de terre aujourd'hui, c'est effectuer des missions d'appui auprès de l'armée d'active. L'armée d'active est une armée de professionnels qui ont un revenu qui leur tombe tous les mois, une solde, et dont le métier des réservistes, c'est ce que j'aime appeler les intérimaires de l'armée de terre. Mais une fois que nous y sommes, il faut s'y tenir, se plier à la vie militaire, être disponible 24 heures sur 24 pour une solde de 50€ par jour environ.
En 2019, Mathieu est aussi un intérimaire du cœur. Il recherche la perle rare, une femme qui partage sa passion pour la poésie et ses valeurs morales. Il écrit.
J'ai fait la connaissance dimanche dernier d'une jeune et jolie professeure de français qui a déjà pris dans mon imagination une place considérable. Je suis allé la voir un samedi après-midi à l'Isle-Adam. Il faisait beau, elle était gracieuse. Elle m'a convié chez elle, mais nous n'avons rien fait. Elle a juste consenti à ce que je l'embrasse. Et le soir venu, elle m'a dit qu'elle allait me raccompagner à la gare. Et je suis parti à l'armée pour mon stage en pensant à elle. À une semaine de la fin du stage, je lui écris pour lui proposer qu'on se revoie. Mais elle m'a dit que malgré tous les bons sentiments que je lui inspirais, elle ne se reconnaissait pas dans mon milieu. Alors que j'étais sale, dans la boue, épuisé par ce stage militaire, je n'avais pas besoin de recevoir une humiliation de plus. À l'époque, je suis célibataire, je vais sur les sites de rencontres, je rencontre des jeunes filles à droite et à gauche, Je m'inquiète de leur réponse ou de leur non-réponse. Je réfléchis beaucoup. Je demande conseil à mes amis. Je réfléchis à des stratégies. Toutes sortes de choses qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Tout ça pour trouver l'âme sœur.
À défaut de savoir où il va, Mathieu s'intéresse à son passé. Il a été adopté au Salvador quand il était bébé et il éprouve à présent le besoin de retourner dans son pays natal pour connaître son histoire. Au mois de mars 2019, il atterrit à San Salvador avec quelques contacts et son dossier d'adoption sous le bras. Il écrit.
Je n'ai pas pu résister à la tentation d'éclater en sanglots une fois arrivé là-bas. Cela m'a fait un choc de revenir dans mon pays natal, 34 ans après. Ce voyage avait quand même un peu de pression relative à mon passé et à mon adoption. Et je ne l'ai jamais autant ressenti qu'à ce moment-là. Mes parents me l'ont dit très tôt, ils ne l'ont jamais caché. Un jour qu'ils n'étaient pas là, j'ai fouillé dans les affaires de la maison et j'ai retrouvé le contrat d'adoption. J'ai retrouvé le nom de ma mère biologique. Je n'étais pas du tout né sous X. Avec le contrat de l'époque, j'avais son nom et même son numéro de carte d'identité, son lieu de naissance. En soi, je pouvais très bien aller là-bas, chercher toutes les personnes qui avaient ce nom-là et mener mes propres recherches. 16 avril 2019, deuxième paragraphe. Nous sommes ensuite allés au siège de Pro Busqueda, l'association salvadorienne de recherche de personnes disparues. Il y a longtemps qu'ils ont ouvert un dossier à mon nom. Du coup, ils étaient déjà en possession de mon contrat d'adoption et des détails les plus importants. J'ai donné mon ADN sur une langue-origine en forme de lime à ongles qu'on a frotté contre mes gencives. À ce moment-là, j'ai surtout envie d'avoir des réponses aux questions que je me posais depuis 34 ans. Pourquoi j'ai été adopté? Dans quelles conditions? Est-ce que ça avait un rapport avec la guerre? Et le directeur m'a reçu dans son bureau, m'a dit « Ne sois pas impatient, nous avons trouvé quelqu'un ». Au moment où je te parle, il y a l'une de nos employées qui est déjà chez elle pour lui faire passer le même test d'ADN que tu es en train de passer. Nous voulons la preuve scientifique que c'est bien ta mère. On ne va pas te dire « c'est ta mère parce qu'elle a le même nom que la personne que tu recherches ». La seule chose qu'on te demande, c'est que tu nous laisses travailler et promets-nous de ne pas aller frapper à sa porte. Je leur ai dit « d'accord, je vous fais confiance ».
De retour à Paris, Mathieu met de côté ses recherches pour renouer avec ses deux principales préoccupations, trouver un emploi stable et rencontrer une femme qui lui convienne. Mais au printemps, il est bouleversé par un événement qui touche la France entière et qui a des résonances particulières pour lui. Il écrit. Le 15 avril a été une journée de drame national lorsqu'on m'a appris que la cathédrale de Notre-Dame de Paris était en feu et qu'il y avait des risques qu'elle disparaisse à jamais.
Vers 7h du soir, je suis monté sur le toit de mon immeuble pour assister au drame. C'était un spectacle diabolique. Le feu semblait dévorer absolument tout. Je me suis senti percé d'un mystère qui allait au-delà de la simple tristesse. C'est dans la cathédrale que j'ai reçu ma confirmation. Et je ne sais par quel miracle, mais j'avais l'impression d'être en partie responsable de cet incendie. Le lendemain de l'incendie, il a fallu que j'aille prier à Saint-Paul-Saint-Louis et allumer un cierge pour combler ce manque. J'ai un très long passé daté et c'est lors d'un chagrin d'amour en 2012 que j'ai senti un appel, la nécessité de prier. Je me souviens d'une crise de larmes dans mon lit, 7e étage de la rue des Tournelles, avec ce besoin de prier, de demander de l'aide à quelque chose qui dépassait l'entendement, dépassait la raison. C'est à ce moment-là que je me suis senti chrétien. C'est très difficile de décrire cela. On se sent appelé, on sent que cette fois-ci tout cela a un sens profond pour nous et qu'on est investi d'une mission pour répandre un certain message et l'incarner à sa façon. 13 mai 2019, deuxième paragraphe. Du 4 au 11 mai est venue Renata. Je suis allé la chercher à la gare de l'Est. Nous sommes allés chez moi pour poser ses affaires. Nous n'avons pas attendu plus longtemps pour faire l'amour. Quand je pense à toutes ces filles à qui j'ai envoyé des déclarations qui n'ont abouti à rien, et que je les compare au cas de Renata, qui ne m'a pratiquement rien coûté un effort, j'en ai le vertige. Et j'ai accepté que cet Allemande vienne exprès de Berlin, en sachant pertinemment qu'il y aurait des possibilités de désir, et aucune possibilité d'amour. Je l'ai laissé m'envoyer des messages tous les jours, et c'est même moi qui lui ai proposé de venir passer une semaine chez moi, en me disant qu'il y aurait probablement un aboutissement nuptial, enfin, disons plutôt sexuel. On peut appeler ça le dilemme de la mauvaise conscience. On peut se dire que le désir, avant tout, désir égoïste et satisfait, et qu'on ne cherche pas en profondeur, c'est quelque chose de plus beau, de plus concluant, quelque chose qui pourrait durer dans le temps. J'en profite avec plaisir, avec mon désir. Ce n'est qu'après coup que je me rends compte que finalement tout cela nous sont des facilités. 10 juin 2019, deuxième paragraphe. Et puis m'inscrire sur un site de rencontre me rend complètement fou. Déjà qu'en temps normal je suis avide de rencontrer quelqu'un, le fait de m'inscrire sur un site m'a rendu encore plus assoiffé, et sans doute de la plus mauvaise façon qui soit. J'ai oublié de dire que la veille je suis allé me confesser à l'église Saint-Ambroise de mes péchés récents, notamment à l'égard de la touriste allemande, reçue chez moi début mai. Chaque fois que je vais me confesser, c'est pour un péché de luxure. Le prêtre m'a dit qu'en ayant des relations de passage avec des femmes que je n'aime pas, c'est comme si je trompais ma future femme. Mais comme il n'est pas certain du tout qu'un jour j'ai une épouse, je ne suis pas sûr que sa prophétie soit adaptée à la situation. Et moi, je deviens chaque jour plus nerveux. Se confesser montre que déjà il y a un problème de conscience. Soit on a un doute, dans ce cas il est normal de s'ouvrir au prêtre, à un prêtre pour exprimer ce doute. Soit on est clairement conscient qu'on a fait une bêtise et qu'il faut aller la reconnaître. Le curé auquel je me suis confessé a une réaction qui en dit long sur sa connaissance de la sexualité d'aujourd'hui. Car il a demandé « Mais elle était consentante ?» Il a été très étonné d'apprendre que oui. Bref, il m'a absous de mon péché. Je peux désormais communier de nouveau. Je lui ai parlé de mes problèmes de cœur. Cette fois, c'est moi qui ai été étonné. Car il m'a recommandé de m'inscrire sur un site de rencontre. Cela dit, il ne m'a pas recommandé Glendon, un site de rencontre extra-conjugale, ni Adopte un mec, où les femmes ont la réputation d'être plus légères qu'ailleurs. Mais Théotokos, un site de rencontre entre chrétiens. À première vue, ce site a l'air sérieux. Il y a évidemment beaucoup moins de choix que sur un site ordinaire. Bien sûr, on ne peut pas publier n'importe quelle photo sur son profil. Celle de moi, en train de faire le poirier, au volcan de Kanchagua par exemple, n'a pas été validée par l'équipe du site, au titre qu'on n'y voyait pas mon visage. Pourtant, le principe d'un site chrétien est de faire en sorte que les gens se rencontrent pour faire des bébés. Avec cette photo, on voit pourtant que je suis en pleine santé et probablement très indiqué pour faire des bébés. Ces chrétiens n'ont pas le sens de la fécondité. Alors c'était un site comme un autre avec une interface très basique, voire un peu rétrograde, avec des profils un peu improbables aussi. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, sincèrement. Et puis finalement, on voit que, comme dans tout site, il y a de bons profils et de mauvais profils. En ce sens, même s'il y avait beaucoup moins de choix, je me suis dit, pourquoi pas? Eh bien justement, j'ai déjà commencé une longue et très intéressante conversation avec un médecin d'origine indienne. Nous avons entamé une correspondance il y a quelques jours. Elle s'appelle Anita. Elle a 34 ans. Elle habite dans l'Est parisien, dans une ville de banlieue accessible en RER. Divorcée mais sans enfant, ce qui théoriquement lui donne un profil qui correspond tout à fait à ce que je recherche. Mais il est inutile de faire des pronostics vu que nous ne sommes jamais rencontrés. 17 juillet 2019. La promenade au bois de Vincennes avec Anita s'est très bien déroulée. Nous nous sommes quittés plus loin avant que j'entre dans le métro, comme je me faisais un devoir en l'embrassant de respecter le contrat d'amitié qui avait été conclu entre nous. Elle m'a envoyé cette phrase décisive à la figure. Est-ce que je te plais ou pas ? Cela m'a fait sourire. J'ai bredouillé quelques mots incompréhensibles avant de me ressaisir, de prendre sa nuque avec ma main et de l'embrasser aussi tendrement que j'ai pu le faire. Encore un scénario que je n'avais pas prévu. Nous avions déjà eu un rendez-vous qui ne s'était pas très bien passé. C'était fait de moments d'hésitation, d'incertitude. Je n'étais pas sûr que ça allait continuer avec. Il y avait eu trop de doutes, peut-être une petite embrouille. Je me suis dit que pour un premier rendez-vous, c'était mal parti. Finalement, je me suis trompé. Elle m'a envoyé un message quelques jours après pour me dire qu'elle a été ravie de me rencontrer. Et ce message était tellement long, tellement beau et bien réfléchi que je me suis dit peut-être que je m'étais trompé sur ce premier rendez-vous et qu'il faudrait en provoquer un deuxième. 22 juillet 2019. Premier paragraphe. Eh bien, le jeudi après-midi s'est très bien passé avec Anita. Nous nous sommes retrouvés à la grande halle de la Villette pour l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon. Nous avons marché jusqu'à la Philharmonie. Nous sommes restés longtemps au pied des escaliers de l'édifice pour nous embrasser. Il y a longtemps que je n'avais pas senti dans mes bras une telle tendresse, un tel abandon, la promesse de quelque chose d'autre. Anita me redonne espoir. On se rencontre aussi en tant que chrétien. Du coup, on se croit sous la responsabilité d'incarner quelques valeurs chrétiennes et on essaie de juger la foi de l'autre. C'est ce que j'ai fait à l'époque. C'est une de mes premières questions que je lui avais posées qui l'a marqué à l'époque, c'était la fréquentation, le nombre de fois où elle allait à la messe. D'ailleurs, le jour où notre relation a commencé, c'était pas n'importe quel jour, puisque c'était un 14 juillet, nous nous sommes retrouvés une messe à Saint-Julien-le-Pauvre. Donc c'était un signe que je lui envoyais, c'était aussi un repère de ma vie à l'époque. Je crois avoir commencé notre relation en lui faisant ce reproche-là. Quoi ? Tu ne vas pas à la messe ? Je cherche quelqu'un qui puisse aussi aller à la messe et en qui je puisse voir les valeurs de la foi chrétienne.
Mathieu et Anita se voient régulièrement, mais fidèles à leurs valeurs, ils ne dépassent pas le stade du baiser. Mathieu, tenaillé par le désir, en vient à douter de la nature du lien qui les unit. Anita se refuse-t-elle par chasteté ou pour une autre raison ? Il écrit. Comme je lui ai proposé de venir chez moi prendre une tisane, elle a cru que j'aurais voulu plus ce soir-là, ce qui l'a refroidi.
Quand j'ai compris mon erreur de l'avoir amenée chez moi, j'ai fait en sorte qu'on boive rapidement sa tisane et qu'on reparte partout ailleurs, mais loin de chez moi. Cela dit, entre Anita et moi, je crois voir un peu plus que de l'amitié tout de même. Il y a quand même du désir entre nous. Certes, c'est du désir sans sexualité. Je sais que de mon côté viendra le moment où je ne pourrai pas me contenter de cela. Mais j'arrive assez bien à gérer cette abstinence. Après tout, j'attends depuis 3 ans une nouvelle compagne. Alors attendre 6 mois de plus ne devrait pas y changer grand-chose. Elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas précipiter les choses et que de toute façon ce n'est pas sa mentalité que d'aller vite. Alors une fois que je suis prévenu, je peux attendre. Et sur un moment d'audace, je l'invite à me rejoindre sur mon lieu de vacances, Kipizé, qui n'est pas n'importe quel lieu de vacances, qui est chez mes parents dans le sud-ouest de la France. Le but, c'est de dire à mes parents que ce n'est qu'une amie. Son avion est arrivé à l'heure, et nous avons pu prendre le chemin du Tarn-et-Garonne et de la Lomagne. Une heure après est arrivé le moment délicat du séjour, la présenter à mes parents. Seulement, comme mes parents voyaient depuis mon arrivée que je n'avais pas les pieds sur terre, j'aurais dit que j'avais quelqu'un dans ma vie et que ce quelqu'un, c'était Anita. Mais comme nous étions ensemble depuis 4 semaines à peine, je leur ai dit de faire semblant de ne rien savoir, que si jamais ils me voyaient sortir au petit matin de la chambre d'Anita, il fallait qu'ils fassent comme s'ils n'avaient rien vu. À ce moment-là, il y a énormément d'incertains sur le fait que nous n'ayons pas de relation. Je ne sais pas encore comment vont se passer les choses. J'espère que les choses ont peut-être évolué. Si elle n'évolue pas, ce n'est pas la fin du monde, mais ce serait un signe en plus ou en moins. Je vais voir ce qui se passe, je suis complètement dans l'attente. Je suis allé voir Anita. N'ayant pas d'autre inspiration, je lui ai demandé si je pouvais dormir avec elle, histoire de lever le doute. Elle m'a dit que oui. Mais lorsque je suis revenu 20 minutes après, elle m'a dit qu'elle n'était toujours pas prête, mais que je pouvais rester sur place. Je me suis dit que la meilleure façon de faire passer le temps serait de marcher loin de là et de prier. Je suis donc parti sur la route à travers la nuit. Une étoile filante est passée et j'ai fait un vœu pour Anita et pour moi, un vœu pour nous deux. Durant cette courte promenade, tiraillé par le doute et en même temps décidé à me plier à sa volonté, je me suis remis à aimer la nuit de toutes mes forces, y lisant ma mort à venir, tout comme l'infinité de l'amour de Dieu pour les hommes. Et quand j'ai frappé à la porte d'Anita, elle était sur le lit. Elle n'a rien dit et m'a permis d'entrer. Je me suis déshabillé et glissé dans le lit. Alors il s'est passé quelque chose de merveilleux. Elle a commencé à m'embrasser. Je l'ai embrassée aussi. Et plus tard, dans la nuit, nous avons fait l'amour.
Elle vous a dit après coup pourquoi c'était si compliqué pour elle ?
Je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons que moi, mais vu par une femme. C'est son intimité, c'est le fait de s'engager. C'est le fait de constater que finalement on ne se connaît pas tant que ça. Ce sont toutes ces choses qui tournent dans notre tête avant la première fois, qui font qu'on se pose beaucoup de questions.
Après la première nuit, tous les doutes de Mathieu s'envolent et il vit une merveilleuse histoire d'amour. Si belle qu'il envisage de passer le reste de sa vie avec Anita. Mais un nouvel obstacle se dresse sur leur chemin. Anita a déjà été mariée. Il écrit.
J'ai confié au prêtre que j'avais un gros blocage psychologique avec le fait que ma nouvelle compagne avait été mariée religieusement et n'avait pas demandé de divorce religieux. Il paraît que cela s'appelle une demande de nullité de mariage. Ce n'était pas un prêtre mais un abbé. Et l'abbé Mérillon m'a dit qu'il me comprenait. Il a essayé de se faire l'avocat du diable et m'a demandé pourquoi cette femme se séparait de son mari. Je lui ai dit que je n'en savais trop rien et que je ne cherchais pas spécialement à le savoir. À ce moment-là, j'ai un certain blocage psychologique qui est, dans le long terme, ça me paraît compliqué parce que si elle ne demande pas cette nullité de mariage, je sens qu'il y aurait quand même quelque chose de boiteux dans notre relation. Une chose qu'elle a faite par la suite et qui a été acceptée, donc son mariage religieux a été annulé. Finalement, ils ne sont pas mariés pour autant, mais au moins, son mariage a été reconnu comme nul et ça a libéré de l'air. Une page de sa vie a été cette fois définitivement tournée.
Enfin en paix avec leurs exigences et leurs sentiments, Mathieu et Anita font le projet d'emménager ensemble. Et c'est à ce moment-là que Mathieu prend conscience que le mystère qui plane sur sa naissance tient sans doute plus de place qu'il ne le pensait. Il écrit. 8 novembre 2019, premier paragraphe. Anita m'a posé des questions sur mon adoption et mes origines.
Je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Du coup, Anita est venue me prendre dans ses bras. Je ne sais pas combien d'heures nous avons passé assis là, dans l'un des endroits les plus romantiques de la Terre, un Burger King. Comme à l'époque, je n'ai pas encore les réponses aux questions que je me pose, il y a un certain mystère qui instaure une certaine pression à ce récit, et le fait de le raconter, c'est un peu comme un volcan qui entre en éruption. Il y a besoin que ça sorte, il y a besoin que ça jaillisse. C'est au moment où on s'y attend le moins que les choses reviennent. Là, l'association ne me faisait plus signe pendant des mois, et finalement, c'est Pamela, la psychologue de l'organisation non gouvernementale, qui me dit, sous le sceau du secret, si c'est bien ta mère, la personne qu'on avait soupçonnée à ta mère, c'est bien elle. L'association Pro Bousqueda m'a annoncé aussi notre grande nouvelle, en même temps que la découverte, la révélation de ma mère biologique. M'ont dit, il y a des journalistes de France 24 qui consacrent un reportage aux enfants disparus du Salvador et ils aimeraient te contacter pour que tu retournes au Salvador avec eux. Lundi 7 décembre était la journée clé de mon séjour. L'objet de mon voyage, car c'était la rencontre avec ma mère biologique, Rufina Angulo. À mon réveil, vers 7 heures, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Anita pour calmer un peu ma nervosité. En effet, il est rare qu'on rencontre sa mère biologique 35 ans après sa naissance, et je voulais faire bonne impression. Rufina se souvenait de moi. Elle m'a gardé avec elle pendant un jour, le 10 janvier 1985. Comme Rufina était à cette période employée d'une maîtresse de maison tyrannique qui a tout fait pour qu'elle se sépare de moi, elle a décidé de me céder à l'adoption. Malgré ses tentatives pour me faire marche arrière, Rufina n'a pas pu me récupérer. Comme Rufina m'a souvent demandé pardon au long de la journée de s'être séparée de moi, je lui ai dit en face, dans les yeux, qu'elle n'avait pas à me demander pardon, qu'elle avait fait le meilleur choix pour moi. Je sais qu'elle aurait aimé qu'on se voie davantage, que je passe plusieurs jours avec eux. Mais pour faire quoi? Pour leur dire quoi? On ne greffe pas aussi facilement de l'amour sur quelqu'un qu'on découvre, quand bien même cette personne est votre mère biologique. J'ai donc fait mes adieux assez rapidement et je suis parti sans me retourner. C'est en me dirigeant vers la voiture que j'ai éclaté en sanglots. J'avais et j'ai encore une famille en France, une mère en France, des parents, un frère, et tout cela ne peut pas être balayé d'un coup pour une personne que l'on découvre un seul jour.
Après ce deuxième voyage, Mathieu a enfin le sentiment d'être allé au bout de quelque chose. Sur les conseils d'Anita, il se fait embaucher comme agent de sécurité à la SNCF. Enfin détenteur d'un contrat à durée indéterminée, heureux en amour, Mathieu effectue une de ses dernières missions de réserviste. Il patrouille dans un centre commercial. Il écrit.
Cet après-midi, alors que nous étions en train de patrouiller sur le parc de stationnement de la Toison d'Or, le centre commercial, j'ai eu une vision. Cette vision m'a serré le cœur. L'émotion m'a pris à la gorge. Je me suis mis immédiatement à pleurer. J'ai dissimulé mes larmes et ma gorge. Même le première classe Drin, assis à côté de moi, ne s'est rendu compte de rien. Cette vision, voilà ce qu'elle me montrait. J'ai vu Anita, enceinte de moi, me dire oui en robe de mariée à l'église. Ainsi, nous n'étions pas deux, mais trois devant l'autel. J'ai eu la vision d'un mariage à trois. Anita, notre enfant et moi. Je ne sais pas s'il s'agit d'une vision prémonitoire. L'avenir le dira. Et Nerval, toujours là. La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Les signes sont partout, sont dans les matières, dans les objets, dans les animaux.
Dans les centres commerciaux.
Et dans les centres commerciaux également, dans les voitures sentinelles déployées en patrouille. Tout fait signe. Cette pensée m'a ému à ce moment-là précis où je suis en train de patrouiller avec un gilet pare-balles et un FAMAS, le fusil d'assaut de l'armée française. Elle était à moitié prophétique parce que même si nous sommes pas mariés, nous avons eu un petit bébé il y a quelques années. Avoir eu un enfant, c'est aussi une forme de mariage, c'est qui dure sans doute probablement plus longtemps que le mariage à l'église. C'est aussi un sacrement en soi. En ce sens, le mariage a quand même été fait, puisque c'est nous-mêmes qui nous sommes attribués ce sacrement. Ma vision a été concluante, puisque la vérité a suivi.
C'était Le journal de ma vie, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Clémence Gross. Et l'épisode du jour, c'était avec Mathieu F. Il était mixé par Ludovic Augier. Merci à Mathieu, François Dubertrand, à Marion Vallée, à Camille Brèche, à l'Association pour l'autobiographie et à Cyrus Mohammadi.